CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Qu'est-ce qui suit print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon. Bon, il est présentement midi 1 et il est présentement midi 1. Oui, effectivement, vous êtes en compagnie d'Éric Laverdure dans votre émission Devant vos écrans, votre seule émission cherbourgoise sur tout ce qui se passe devant vos écrans. Alors, en espérant que vous allez bien, vous passez une excellente journée en ce 11 novembre 2020. Un peu gris, effectivement, jour du souvenir également. J'espère que vous avez une pensée aujourd'hui pour tous ces vétérans. Que ce soit de toutes les guerres, en fait, qui ont fait leur possible pour protéger les intérêts, souvent des grands financiers de ce monde. Alors, on les salue aujourd'hui. On pense à eux aussi, exactement, et on se demande si la guerre vaut encore vraiment la peine. Mais on ne parlera pas de guerre aujourd'hui, peut-être de guerre virtuelle quand je vais parler un peu plus tard, de jeux vidéo. Mais présentement, aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, de guerre, mais on va parler de plein d'autres choses aussi intéressantes qu'à notre habitude. On parle encore des élections américaines de 2020. On va parler de Parler, qui est le nouveau réseau social de la droite américaine, pas si libre que ça. On va également parler de cette promesse que Justin Trudeau a faite lundi d'emmener l'Internet haute vitesse à près de 98% des Canadiens dès 2026. On va également parler du nouveau MacBook avec un processeur, le nouveau processeur M1, qui est un processeur fait à la maison, mais fait pas à la maison, mais qui est fait par Apple dans leurs propres installations. Alors, comparé aux autres processeurs qui étaient faits, par exemple, par Intel ou AMD dans le passé. Bref, maintenant, ça va être des processeurs faits par Apple. On en parlera un petit peu plus tard. On va également parler un peu d'Xbox et tout ça. Mais comme à notre habitude, commençons en ce premier sujet en parlant de politique américaine. Alors, by the way, ce midi, on va écouter la musique, en fait. On va écouter la musique de Vince, de Dead Obies. Alors, ça va être ça, les transitions aujourd'hui. Nous sommes dans des journées spéciales en ce moment à la radio, des journées où ce qu'on enregistre tout ce qu'on joue. Alors, notre but est de donner aux artistes québécois. Alors, c'est pour ça qu'on va être très québécois aujourd'hui pendant notre émission. Alors, les élections américaines, plusieurs choses à dire dans ce roman qui est devenu ces fameuses élections. Tandis que la victoire de Joe Biden fut confirmée samedi par la plupart des grands médias, le monde est tourné présentement vers Donald Trump et son équipe qui continue de crier à la fraude pour les résultats des élections de 2020. On parle même de vol électoral. Alors, pardonnez-moi pour ça, là, je fais deux, trois choses en même temps, c'est ça la vie d'être seul devant le micro et la console, j'ai pas d'assistant moi, comme dans les grandes stations et tout ça. Alors, pendant que le reste du monde, on surveille les agissements du 45e président américain, son ancien conseiller politique et grand ami Steve Bannon est encore dans le pétrin. C'est le site Gizmodo qui nous apprend que Steve Bannon fut surpris en train de diriger un réseau de pages de désinformation sur Facebook pendant la période électorale américaine. Steve Bannon a été dénoncé par son implication dans la gestion d'un réseau de pages de désinformation. Facebook a beaucoup parlé de la surveillance de la désinformation électorale. Ils ont même fait leur cheval de bataille pour les élections de 2020. C'était vraiment important pour eux qu'il n'y ait pas de dépassement comme on aurait pu voir en 2016. Et pourtant, le réseau social, c'est le réseau d'activistes indépendants Avaaz qui a déclaré qu'il devait alerter l'entreprise à propos des pages ciblées avant que celle-ci soit supprimée pour comportement suspect coordonné. Alors même l'algorithme que Facebook n'a pas arrêté de se vanter dans les médias avant les élections qu'ils allaient être là, veillés au grain. Finalement, ben, c'est encore des activistes internationaux qui décident de porter plainte et que là, tout d'un coup, ben, là, Facebook vont comme « Ben oui, vous avez raison, on va supprimer la page. » Alors encore, on se demande si Facebook ont réellement investi dans cette fameuse « War Room » qu'ils étaient si contents d'avoir. Alors, comme Avaz le dit bien, hein, ils n'ont pas eu besoin d'une armée de 35 000 modérateurs comme Facebook se targue de dire qu'ils ont pour comprendre qu'il y avait anguille sur roche. Et pourtant, Facebook ne parvient toujours pas à repérer les fauteurs de troubles que les journalistes ou les chercheurs avec beaucoup moins de fonds et de personnel semblent continuer à repérer. Alors, Avaz avait déclaré avoir alerté Facebook sur les pages vendredi soir. À ce moment-là, dans l'ensemble, Avaz affirme que les 7 premières pages de sa récolte, alors les pages du nom de Brian Colfage, Conservative Values, The Undefeated, We Build the Wall Inc., Citizen of the American Republic, American Joe et Trump at War, avaient collectivement gagné plus de 2,45 millions d'abonnés. Dans certains cas, on peut se rappeler que Bannon et Brian Colfage, en fait, c'est des co-conspirateurs de We Build the Wall Inc., qui a été une collecte de fonds de... Je pense que c'était pas Indiegogo, mais bref, il y a une collecte de fonds faite pour qu'on construise un mur avec l'argent des sympathisants de Donald Trump et de sa philosophie. Et finalement, les deux personnes, mais les personnes organisatrices, se sont enfuies avec l'argent. Alors, c'est encore des grifters, comme on aime bien le dire présentement sur l'équipe de Trump, des gens qui font des mauvais coups, des gens qui font des escroqueries. Ça, c'est des escrocs. Alors, le directeur de la campagne d'Avaz, Fadi Curran, a déclaré à Gizmodo que son équipe avait identifié les pages de Bannon en effectuant une analyse des influenceurs. Alors, il gardait normalement, notamment, je veux dire, un œil sur les invités fréquents, sur les podcasts de Bannon et les pages affiliées à l'ancienne griffe de We Build the Wall, cette ancienne escroquerie de We Build the Wall de Bannon. Avaz, qui est composé de 40 enquêteurs et analystes de données, a gardé un œil sur la désinformation, sur les désinformateurs habituels et leur partage coordonné via un logiciel personnalisé. Ils ont remarqué que les pages liées à Bannon avaient tendance à publier du contenu en même temps et étaient liées à Populous Press, qui est un genre de site qui copie des articles encore plus à droite que le Drudge Report et qui trafiquait des allégations présentement de fraude électorale. Les pages ont évité les étiquettes d'avertissement en blanchissant des liens via le domaine Populous Press plutôt que de publier les URL d'origine des articles que Facebook avait déjà signalés comme la désinformation. Alors, on va prendre le contenu de l'article, on va le publier sur un autre site que lui n'a pas été tagué par Facebook et par la suite, on va pouvoir publier comme ça. Alors, il y a peut-être il y a des mécanismes assez intéressants qui existent présentement pour faire de la désinformation en politique américaine et Facebook ne semble pas fournir. Comme je le disais, c'est une petite équipe. S'ils sont capables de repérer ce genre de choses-là, on se demande pourquoi une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec des dizaines de milliers d'employés sont pas capables de trouver ces informations-là. C'est ça que Avaz se demande. Si 2016, selon le représentant de Avaz, si 2016 était un accident, 2020 a été une négligence. Alors, on voit très bien qu'on est très critique sur la gestion de la désinformation de la part de Avaz, et on peut le voir effectivement avec ce qu'on souligne aujourd'hui dans ce rapport. Par exemple, on se rappelle que la semaine dernière, Facebook avait supprimé deux vidéos provenant de Steve Bannon, dans laquelle Bannon a suggéré la décapitation du docteur Anthony Fauci et du directeur du FBI. Cette vidéo-là avait été vue par 200 000 personnes avant que Facebook ne la supprime. 200 000 personnes ont pu voir cette vidéo-là avant que Facebook la supprime. C'est ça qui est encore plus dangereux. C'est ça qui fait peur, en fait, de la gestion des réseaux sociaux. Parce que oui, c'est facile de crier au grand complot, mais là, le complot, il est même pas en arrière, il est même pas dans des grandes réunions secrètes et cachées. Il est devant nos yeux actuellement, ce complot-là. C'est des gens, peut-être sur Facebook, peut-être chez Facebook, qui évitent de faire leur emploi, ou peut-être les algorithmes ne sont pas aussi bons que Facebook aime le publiciser. Alors peut-être Facebook devrait se garder une gêne qu'ils sont en train de dire qu'ils sont les meilleurs pour contrer la désinformation et qu'ils devraient recevoir tous ces milliards et ces milliards de dollars provenant des gouvernements pour nous assurer que nous, pauvres petits peuples, on lit très bien les articles qui sont publiés sur Facebook. C'est là qu'il y a anguille sur roche. Et surtout, on se rappelle justement qu'est-ce qui se passe dans la War Room de Facebook, cette fameuse salle ou cette fameuse... section qui était supposée d'être là pour travailler activement contre la désinformation, elle servait à quoi? Est-ce qu'elle servait seulement à prendre des belles photos puis d'aller parler devant les médias pour dire que oui, Facebook va être là pour vous protéger, chère population? Finalement, Facebook n'est pas là. C'est toujours, malheureusement, des activistes, des gens d'un peu partout dans le monde qui font des reports, qui font des signalisations à Facebook, et que tout d'un coup, Facebook dit « Ben oui, vous avez bien raison, on va les enlever. » Tout d'un coup, là, Facebook prend ils prennent le mérite d'avoir supprimé ces pages-là, puis sont comme « Regardez à quel point que nous, on vous laisse avoir une démocratie, à quel point que nous, on protège la population. » Ce qui est complètement faux. Avoir depuis les accusations d'Avaz. Alors, portez un œil sur qu'est-ce que Facebook dit être mauvais et ne pas être mauvais. Des fois, comme je le disais la semaine dernière, il laisse passer de grandes choses et on peut pas laisser nos États, on peut pas laisser nos gouvernements être autant à la merci des grands dirigeants de Facebook. Il faut les encadrer, il faut mettre des lois pour éviter qu'il y ait des désinformations comme ça, et qui sait, peut-être un mouvement massif de déconnexion de Facebook sera peut-être la prochaine étape. Je vous invite à commencer la réflexion. Sinon, ben c'est ça. Alors, heureusement qu'on a Avaz qui continue de surveiller les différentes allégations de fraude électorale, les incitations à la violence et en particulier la désinformation qui va cibler la population de la Géorgie lors du second tour des élections de leur État qui sera bien popularisé. Alors, heureusement qu'il y a Avaz pour parler de tout ça et de sécurité chez Facebook. Toujours dans la planète politique américaine. On va parler, j'aime ça dire ça parce que, parce que le nom de l'application est fantastique pour les gens qui parlent français. L'application s'appelle Parler, P-A-R-L-E-R, Parler. Alors c'est comme je te disais, alors on va parler de Parler, le nouveau Twitter pour les gens de la droite américaine. Alors cette application-là, c'est une plateforme de médias sociaux qui se vante d'être un paradis pour la liberté d'expression qui a apparemment commencé à interdire les comptes et à supprimer du contenu. Alors, au cours des derniers jours, plusieurs utilisateurs de Twitter ont tweeté qu'ils avaient été expulsés de Parler, en jugé par les messages annonçant qu'ils ont été en fait bannis. Au moins, certains des utilisateurs interdits semblent s'être inscrits au service précisément pour tester les limites de la politique dite de liberté d'expression de l'application. Alors, c'est une application qui se vante, qui était comme « Allez, venez chez moi, les gens qui sont tannés de Twitter et de sa surveillance de nos réseaux, de sa surveillance même du fait qu'ils ont banni des articles de journal. Récemment, on parle du New York Post, par exemple, avec son article sur Hunter Biden qui a été banni pendant quelques jours sur Twitter. Ces gens-là étaient tannés, se sont dit « Bon, ben, nous, on va on va faire comme Bender dans Futurama, on va décider d'aller de fonder nous-mêmes notre propre plateforme avec du blackjack et des stripteaseuses. » Alors, c'est un peu ça qu'on a fait avec Parler. On a décidé de créer sa propre application pour laisser une liberté d'expression, et c'est vraiment leur marque de commerce. Alors là, plusieurs personnes de gauche disent avoir été bannies par cette plateforme-là. La plateforme a été lancée en 2018. Elle se présentait comme un média impartial et est généralement considéré comme une alternative, oui, conservatrice à Twitter. Même Ted Cruz a boosté le service, qui est également utilisé par le président Donald Trump, son fils Eric Trump, Rudy Giuliani et Candace Owens de Turning Point USA. Les conservateurs ont afflué vers la plateforme de médias sociaux, en particulier après que le président Trump a eu des tweets sur les bulletins de vote par correspondance signalés et vérifiés comme potentiellement trompeurs en mai. Alors là, les gens étaient fâchés, étaient comme « Bon, on va pas commencer à se faire dire qu'est-ce qui est vrai ou non par une entreprise comme Twitter. » Alors de notre côté, on va fonder notre propre Twitter. Le PDG de Parler, John Matz, n'a pas hésité à promouvoir la prétendue manque de censure de Parler dans une interview accordée à CNBC le 25 juin dernier. Matz a déclaré que l'application était une place de ville communautaire, une place de ville ouverte sans censure. Il a ajouté « Si vous pouvez le dire dans la rue de New York, vous pouvez le dire sur Parler. » Alors, Matt a également déclaré à CNBC qu'il espérait obtenir des voix libérales sur l'application. Alors, des libéraux, alors on va dire déjà un peu plus de centre-droit, de centre-gauche aux États-Unis. C'est pas mal ça, des libéraux pour eux autres. Alors il disait même qu'il était prêt à offrir une récompense de 20 000 $ à tout expert ouvertement libéral avec 50 000 abonnés Twitter ou Facebook pour rejoindre Parler. Alors, par exemple, si j'étais assez connu, je pourrais dire, moi, je m'en vais sur Parler, donnez-moi le 20 000 $. Bon, probablement, est-ce qu'il donnerait? Bon, ça, je sais pas, à voir qu'est-ce qui se passe avec l'application. Alors, bien que Parler soit présenté comme soutenant la liberté d'expression, le contrat d'utilisation semble dire le contraire. Alors, Parler peut supprimer tout contenu et mettre fin à votre accès au service à tout moment et pour quelque raison que ce soit ou sans raison. Bien que Parler s'efforce de permettre toute liberté d'expression légale et ne porte pas atteinte aux droits légaux d'autrui. L'accord d'utilisation indique également que la société peut et cessera de ce sera en fait votre compte si cela est jugé nécessaire, bien que les directives de Parler vous fournissent des conseils sur le contenu en fait qui n'est pas approprié. Parler est libre de supprimer le contenu et de résilier votre accès au service même lorsque les règlements ont été suivis. Parler a également une liste de directives que ses utilisateurs doivent respecter. Il n'y a pas de spam, pas de diffamation ou de chantage, aucun poste de soutien aux organisations terroristes, pas de mort, pas de mots de combat, en fait, pas d'appel à la violence ou de menace qui pourrait nuire à autrui, aucun message faisant la promotion de la marijuana qui allait considérer comme légale au niveau fédéral et pas de pornographie, d'obscénité et d'indécence. Alors pour un... Ça me fait penser pas mal aux libertariens, hein, ces gens qui veulent enlever l'État, ils veulent vraiment vivre leur vie comme si on était des hommes préhistoriques et que si je décide, par exemple, que mon voisin, je l'aime pas, ben, je peux faire ce que je veux avec lui parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Mais en même temps, on veut tout de même avoir un cadre comme une société. Alors, c'est un peu ironique venant des gens qui crient à la liberté d'expression. Alors, il est déjà midi 17 de notre côté. Eh bien, on s'en va en publicité. On va aller également écouter un peu de chansons 100% québécoises. Vanille avec Fleur s'en vient bientôt. Mais sinon, tout de suite après les pauses, on va écouter Sous les néons de Xela Edna sur l'album Alter Ego. On s'en va faire ça à l'instant. Et on se rejoint, je veux dire, après la pause.
Tu me feras danser. Oui, je suis la seule à tes côtés. Un samedi soir déjanté. Ah,
retour. Oh, pardonne-moi. De retour à devant vos écrans, il est 12h25. Pas presque 26. On vient de passer, en fait, à midi 25. J'espère que vous allez toujours bien et que vous êtes toujours au rendez-vous pour devant vos écrans en ma compagnie, Éric Laverdure. Alors, on continue de parler électronique, informatique, que tout ce qui se passe devant vos écrans. Après, on parle un peu trop des États-Unis, hein, comme on fait toujours dans mes émissions. On va parler un petit peu plus de ce qui touche notre belle, le plus beau pays du monde. Alors, le gouvernement Trudeau, va ajouter 750 millions de dollars supplémentaires aux milliards de dollars promis dans son budget de 2019 pour fournir un accès Internet haute vitesse aux citoyens de partout au pays. Cette enveloppe totale maintenant de 1,75 milliards de dollars, dont 150 millions sont rendus disponibles dès maintenant, constituera le fonds pour la large bande universelle dont le premier ministre en a fait l'annonce lundi dernier. Grâce à cet investissement important, le gouvernement fédéral espère relier 98% des Canadiens à des réseaux Internet haute vitesse d'ici 2026 et la totalité de la population d'ici 2030. Pour brancher les communautés des régions éloignées, le gouvernement fédéral compte sur une entente de 600 millions de dollars avec l'opérateur Telsat afin de fournir un accès à large bande passante par satellite dans ces régions. Alors ça, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle de la part du gouvernement Trudeau d'investir de plus en plus dans cette technologie qu'est l'Internet. Hein. Je sais pas, ça fait... Oh, c'est tellement nouveau, l'Internet, là, pour de vrai. Là, c'est comme si on en parlait depuis les 30 dernières années au pays, que l'Internet, l'accès à l'Internet est défaillant. On le voit actuellement avec les demandes, hein, qui sont constantes en télétravail et même là un peu plus par chez nous, en Estrie, qu'on passe à la zone rouge dès demain. Eh bien, le télétravail va se faire de plus en plus. Et on l'a vu au début du télétravail, que même nos réseaux modernes n'étaient pas efficaces. Par exemple, on peut même penser en France ou en Europe, où Netflix a même baissé son taux de qualité un petit peu pour assurer que les réseaux ne plantent pas, parce qu'il y avait trop de monde de connecter en même temps. Bref, nos infrastructures d'Internet, nos infrastructures de connexion ne sont pas à jour, ne sont pas adaptées à la demande d'aujourd'hui. Est-ce que c'est 1,75 milliard de dollars qui va réussir à régler le problème? Je sais pas. Faudrait demander à la population en Abitibi actuellement, qui paye encore des prix faramineux pour un accès à Internet de qualité médiocre. On peut encore penser aux Autochtones aussi dans le nord du Canada qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et là, on voudrait leur donner de l'Internet par satellite parce que là, tout d'un coup, l'Internet s'est rendu le fun. Ça va sûrement être bon pour Trudeau pour gagner ses prochaines élections. Bien sûr, c'est un beau plan, puis je serai jamais contre l'investissement de nos ressources dans des connexions et surtout un peu partout au Canada. On est un grand pays, les infrastructures coûtent cher. Mais pourquoi encore donner de l'argent à des compagnies privées quand ça fait des années, des années, des années que les compagnies privées ne sont pas capables de gérer des réseaux comme ça? Il faudrait toujours que le gouvernement installe les fils et qu'ensuite les réseaux privés décident d'aller donner du service. Alors pourquoi ne pas réduire l'intermédiaire? Et pourquoi ne pas simplement nationaliser une partie de notre Internet, nationaliser une partie de l'Internet dans le Nord pour M. Trudeau? Peut-être cela pourrait y permettre de gagner plus ses élections. Je sais que c'est moins le fun pour ses amis, je sais que c'est moins bien pour les gens qui ont investi dans ces infrastructures. On pense à la famille Bell, on pense à la famille Rogers, on pense à TELUS, on pense à Vidéotron, on pense à tout ça. Mais en même temps, on voit de plus en plus que l'Internet, que la connexion devrait être traitée comme une ressource naturelle, une ressource de subsistance. Les gens ont besoin d'Internet pour vivre actuellement, les gens ont besoin d'Internet pour parler avec leurs proches, les gens ont besoin d'Internet pour étudier. Pourquoi ne pas réussir enfin à faire la transformation numérique que le Canada mérite? Le Canada est un grand pays, que ce soit par sa grandeur dans les différents palmarès annuels de où ce qu'il fait bon vivre. C'est également un grand pays territorialement. Bref, c'est un grand pays physiquement. C'est un grand pays, c'est beaucoup d'espace, le Canada. Je peux comprendre qu'effectivement, ça peut coûter cher. Mais là, on investit encore, on annonce en fait des investissements et finalement, il n'y a rien qui se transforme, il n'y a rien qui arrive pour les communautés qui vivent dans les endroits les moins desservis pour l'Internet. On a encore besoin pour certains de se déplacer dans des grands centres pour effectuer des petites choses que l'Internet pourrait, ou sinon on paye des prix faramineux pour avoir de l'Internet par satellite. Là, c'est le fun, on donne 600 millions de dollars à Telesat pour qu'ils puissent offrir. Ça veut dire quoi offrir au final? Est-ce que c'est offrir comme on offre des bonbons à l'Halloween ou est-ce que tout le monde peut en ramasser? Non, ça risque d'être offrir du genre on va vous offrir l'argent pour que vous puissiez faire payer aux Canadiens des services Internet. Ce qui est correct, ce qui est correct. On vit dans un monde capitaliste et tout ça, ça, je comprends ça très bien. Mais pourquoi encore, en 2020, on doit annoncer ce type d'investissement-là et qu'on ne bouge pas encore? On se rappelle un peu de la CAQ, par exemple, qui avait promis que les régions québécoises allaient être pluguées sur Internet dès 2024. En fait, juste, ils se donnaient jusqu'à 2024, ils se donnaient jusqu'à la fin de presque leur premier mandat et tout ça pour réaliser cette promesse-là. Et finalement, en fait, je pense que c'est 2022 finalement, et on réalise, on a finalement dit à la population, ben désolé, ça ne sera pas, il y a eu toujours des changements, la COVID, hein, le dos large présentement, la COVID, sûrement que c'est la COVID qui ne peut pas faire que des gens soient dehors à installer des fils d'Internet parce que bon, on peut pas. Les gens, ils doivent porter un masque, fait qu'ils peuvent pas aller travailler dans le nord du Québec à poser des fils. Alors, c'est encore des populations qui, malheureusement, seront déconnectées, seront laissées à eux-mêmes. On pense aussi aux gens, par exemple, des Îles-de-la-Madeleine, lorsqu'il y a eu le fil de courant qui a brisé, qui a plus d'Internet et qu'on n'a plus de contact avec les Îles-de-la-Madeleine pendant presque 2 jours l'an dernier, si je me rappelle bien. On pense à eux. On pense à ces gens-là qui, oui, vivent d'une façon différente. Ils vivent, on vit en insulaire, on vit sur une île. C'est sûr que c'est plus stressant, c'est plus complexe. Mais au final, on oublie souvent ces gens-là. Et bon, la CAQ ou même les libéraux de Justin Trudeau, bref, veulent donner de l'argent pour cette fameuse Internet-là qui devrait sauver tout le monde. Mais pour qui, pour quand, on le sait pas encore. Et on saura peut-être jamais. Encore une semaine où je parle d'Apple, faudrait prendre ma température, comme dirait mon père. Oui, Apple qui a annoncé, en fait, hier, si je me rappelle bien, oui, hier, lors d'un événement spécial qui s'appelait One More Thing. Vous vous rappelez, hein, on se rappelle de Steve Jobs qui terminait ses conférences de presse quand ils annonçaient des gros produits, puis il finissait toujours avec un One More Thing. Oh, tout le monde capotait, tout le monde devenait émotif, il avait hâte de voir c'était quoi le One More Thing. Pour certains, ça a été l'iPhone, si je me rappelle bien. Et pour d'autres, je pense qu'on a eu les Mac G3, bref, les ordinateurs de couleur qui étaient assez fantastiques à l'époque. Bref, Apple a annoncé en fait la création de sa nouvelle puce, en fait, sa nouvelle gamme d'ordinateurs qui est équipée de sa propre puce, la M1, au lieu de celle d'Intel, marquant le début d'une transition qui va prendre 2 ans pour la marque de la pomme. Alors, la M1 va apporter des modifications, des améliorations substantielles en termes de performance et d'efficacité. C'est le plus grand bond en avant pour les Mac, assure un communiqué du géant de l'électronique. Ce qui est quand même vrai, les MacBooks n'avaient pas réellement changé depuis les 10 dernières années, à part par leur format. Ils sont devenus plus petits, ils sont devenus plus minces. Ils ont perdu à l'époque, par exemple, des ports aussi. Hein. Il y avait les... Il y a eu une époque, on se rappelle, où il y avait juste un port Thunderbolt, alors là, on devait avoir un adapteur avec 15 prises, bref, toujours aussi drôle de voir les utilisateurs d'Apple avec ça. En fait, la puce, hein, pour vous mettre la puce à l'oreille, je m'haïs un peu, elle comporte 16 milliards de transistors, plus que dans toute autre puce d'Apple, et utilisée dans les nouveaux portables MacBook Air, les 13 pouces. En fait, les MacBook Air, les MacBook Pro de 13 pouces et les Mac Mini qui vont être commercialisés à partir de la semaine prochaine à des prix débutant de $700 pour le Mac Mini et $1,300 pour le MacBook Pro 13 pouces. Cette nouvelle puce, c'est le résultat en fait d'une vision développée depuis 15 ans chez Apple et représente une étape majeure pour la firme de Tim Cook en termes de capacité à mieux contrôler son écosystème d'équipement à l'avenir. En juin, le groupe californien avait annoncé cette évolution inspirée par les besoins des autres appareils de la marque comme l'iPhone. La transition orchestrée par Apple va prendre 2 ans et la société va tout de même sortir de nouveaux modèles avec des puces Intel. Alors, ce qui est intéressant de la part d'Apple, c'est qu'on a vu qu'il y avait un marché pour des nouvelles puces informatiques. Présentement, le marché des puces informatiques est géré par 2 grandes compagnies. On a AMD et on a Intel. Ces grandes entreprises-là, ils font le jour et le bon temps actuellement dans la sortie des puces. Par exemple, on le sait qu'AMD ont sorti de nouvelles puces récemment pour leurs ordinateurs de bureau, qui est la Ryzen. Intel, on attend toujours des nouveaux processeurs d'Intel avec plus que 8 cœurs. Bref, c'est cette course-là un peu au processeur qui est toujours, en fait, qui est toujours stable parce qu'il y a juste deux grandes compagnies qui se répondent à chaque nouvelle sortie. Maintenant, avec Apple, je pense qu'Apple va venir jouer dans les plates-bandes, pas de Intel ou pas de AMD, mais vont venir jouer dans les plates-bandes de ARM, A-R-M, qui est un autre type de créateur de processeurs qui, à l'époque, fournissait des puces pour certains ordinateurs de Microsoft, notamment les premières Surface, les premières tablettes Surface étaient sur ARM. C'est pas le même type d'infrastructure qu'un ordinateur normal, alors on pouvait s'attendre, par exemple, que des logiciels ne fonctionnent pas sur un processeur qui était de... Je veux pas être trop technique, mais qui était, par exemple, de la famille des X86, et maintenant que ça va dans la famille des ARM. Là, avec Apple et son M1, j'ai l'impression qu'on s'en va un peu vers la même chose. Alors, on va créer une nouvelle infrastructure parallèle au Apple. On va avoir des Apple avec Intel, et on va avoir des Apple avec M1. Peut-être les gens avec des Apple M1 vont peut-être être un peu déçus lorsqu'ils vont sortir. Ça, c'est sûr, je vais en reparler, parce qu'il se peut très bien que toutes les applications ne fonctionnent pas parfaitement sur la puce M1 jusqu'à temps que les entreprises décident de bâtir l'infrastructure pour la puce M1, parce que ce n'est pas nécessairement la même infrastructure, le même type de code que la puce peut parler avec le système d'opération. Alors, on ne pourrait pas y donner des ordres de la même façon qu'avec un Intel ou avec un AMD. Alors, on verra bien dans les prochaines semaines, en fait, si ces ordinateurs-là vont être assez intéressants. En tout cas, du côté de Apple, je pense que c'est un grand coup pour eux de commencer à produire leurs puces à l'intérieur, comment dire, in-house, à l'intérieur de leur entreprise, pour pouvoir leur donner, pour pouvoir, en fait, s'assurer qu'il n'y aura pas de manque de stock. Si, par exemple, Intel décide de la jouer cavalier avec Apple. Parce que ça s'est vu dans les dernières années, des manques de puces. Par exemple, avec la COVID, là, il y a eu un manque de production en Chine pour les puces informatiques. Alors, il y a eu une difficulté d'approvisionnement chez certains créateurs de produits. Alors, peut-être Apple se sont dit, ça fait 15 ans, faut que ça fait 15 ans qu'ils se disent qu'eux, ils veulent créer leur propre puce. Ils vont pouvoir être maintenant aussi gérants de leur propre infrastructure et également gérants de la propre fabrication de leur puce, qui pourrait éviter, par exemple, des retards de production pour des nouveaux produits à Apple qu'on pourrait voir dans le futur. Alors, de ce côté-là, félicitations à Apple. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus que ça. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement, pour eux, pour la compagnie de la pomme, de commencer à être un peu plus autonome. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose chez les consommateurs, sauf lorsqu'on verra bien les tests de ces puces M1 pour voir s'ils peuvent faire runner, hein, comme on dit en bon français, des applications telles que Photoshop, telles que Word, bref, des applications quand même assez populaires au niveau de l'infrastructure Apple et qui pourraient peut-être créer certains pépins chez les fans de la pomme. Sinon, on a un autre petit sujet, là, j'essaie de regarder mon temps, on est un peu timé aujourd'hui, mais on va y aller malgré tout. En fait, on va sauter d'un sujet puis on va y repasser après la pause. Alors, c'était la sortie de la Xbox S/X il y a, en fait, mardi, hier. La planète jeux vidéo attendait l'événement depuis des mois. Alors, c'est fait, cette nouvelle Xbox Series. Qu'est-ce qui est assez intéressant de la Xbox Series? C'est qu'on crée deux nouvelles consoles. Alors, ce n'est plus une Xbox. Il n'y a plus juste un modèle d'Xbox. C'est la Xbox S puis la Xbox X. La Xbox S, c'est comme une entrée de gamme. C'est pour le petit garçon à la maison. Il n'y a pas un gros disque dur. Alors, c'est sûr qu'il faudrait racheter un disque dur par la suite. Je pense qu'il n'y a pas non plus d'endroit pour rentrer des CD. Alors, c'est vraiment une console nouvelle génération, nouveau genre, mais qui n'est pas aussi puissante que la Xbox X. Ce qui veut dire que les jeux qui vont être sortis pour la Xbox Series vont pouvoir fonctionner sur les deux machines. Et sinon, la Xbox X, de son côté, c'est une machine qui va être un peu plus forte du côté du processeur, de la carte graphique, et qui va avoir une entrée pour rentrer des CD également. Il va avoir un plus gros disque dur aussi. Alors ça fait en sorte qu'il va avoir, deux façons de tester les jeux dorénavant du côté d'Apple, de Microsoft, pardonnez-moi, du côté de Xbox. C'est qu'on va pouvoir, par exemple, avoir une critique d'un jeu comme le nouveau Assassin's Creed Valhalla, qui est sur Xbox S et qui est sur Xbox X, et voir les différences, les graphiques et les comparaisons de graphiques. Tout porte à croire qu'il va y avoir de grandes différences entre les deux machines, mais on verra bien si les conditions de jeu vont être quand même assez pareilles, parce que je pense que le fait d'avoir créé deux nouvelles consoles, de les avoir séparées en deux branches, ça va peut-être créer des maux de tête aux papas et aux mamans ce Noël quand les jeunes vont vouloir des Xbox, puis ils vont se dire, ben là, quelle Xbox que tu veux que je t'achète? Et ils vont finir par acheter le mauvais modèle et ça va être la crise le matin de Noël. Alors, du côté des prix hein, canadiens, comme je vous le disais, le Xbox X, qui est un peu un prix premium, est au coût de 499 et sa petite sœur, la Xbox S, est à 299 $. Faut se rappeler que là, c'est un retour dans l'arène pour Microsoft qui a vendu beaucoup moins de consoles de sa dernière version, qui est la Xbox One, que son rival japonais, le PlayStation 4, qui étaient tous les deux sortis en 2013. Alors c'est un nouveau chapitre qui s'en va de plus en plus vers une dématérialisation des jeux vidéo. On le sait hein, que la Xbox S, par exemple, n'a pas de lecteur CD. La PS5 a un modèle qui n'a pas de lecteur CD également. Alors, on va voir où est-ce que le monde nous amène pour le partage de ces jeux et pour aussi l'achat de jeux qui ne sera plus en magasin. C'est sûr qu'actuellement, avec la COVID, on se pointe un peu moins en magasin. On commande plus par Internet. Mais il y a beaucoup de collectionneurs qui appréciaient tout de même avoir des CD dans leurs mains. Alors, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. De notre côté, on s'en va en musique. Maxime Gervais s'en vient avec Buffy et Spike. Mais juste avant, on s'en va écouter Louis-Philippe Gingras avec Parc à Chien, qui est en collaboration avec La Bronze. On va écouter ça à l'instant à devant vos écrans au CFAK 88.3.
Ma main, on s'en va au parc à chiens, compter les cacatoès, fumer des botches d'aloès, riant des polices, à se taper sur leurs pas de cuisse, juste crie, c'est rien au parc à chiens. Prendre de la bière, on s'en va au parc à soir. Comptez les moutons dans le ciel, m'a chanté des tonnes de Noël. On rira aux éclats, les obus sur Gaza nous crisseriez au parc à chien. On dormira à belle étoile, dans cabane, terrain de balle, en cuillère ou en couteau sale. Direct en fontaine, les big de drums, nos bédaines. Enlève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne. Comptez des histoires de peur au bonnet, au quai de liqueur. On rira plus pantoute, l'hiver arrivera goutte à goutte. Y'a rien à crisser au parc enneigé.
Prends ton jacket, on s'en va pis il fait frette. Check donc sur un spot de verre, l'été met le feu à l'hiver, en riant des bancs de neige, ma peau redevient un peu beige.
Enfin.
Crisez rien au parc à chien.
On dormira à belle étoile, dans la cabane, c'est terrain de balle. Cuillère ou en couteau sale. On boira direct dans la fontaine, des billes de drum sur nos bédaines. Enlève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne.
voilà, devant vos écrans, il est présentement midi 49, presque 50. Dernier sujet de la journée de cette émission, en fait, pas de la journée, mais c'est ça, de mon show de 7 heures qui arrive à grands pas. L'impression, les imprimantes, on va en parler un peu des imprimantes. Tout le monde aime ça, tout le monde en a de besoin, surtout actuellement. C'est fou, hein? Alors, on n'a jamais autant imprimé, même si on s'en va, comme je le disais dans le dernier sujet sur la Xbox, qu'on s'en va de plus en plus vers une dématérialisation. Les gens veulent éviter de dépenser de l'argent pour de l'encre, pour des... Bref, pour tout ça. Hein? Alors, si je vous annonçais qu'il y avait un produit de HP qui faisait que si vous ne payez pas vos frais mensuels, l'imprimante arrête de fonctionner. Hein? Hein? On est rendu dans un monde assez dystopique. Hein? Alors, c'est HP Instant Ink qui nécessitera des frais mensuels pour les imprimantes continuer de fonctionner. Beaucoup considèrent probablement que le monde d'aujourd'hui, ben, c'est un monde numérique. Mais le fait regrettable est qu'on imprime de plus en plus de documents, surtout en grande partie, dans une grande partie du monde. Même, on pense à nous ici, hein, qu'on envoie encore des résultats de tests de COVID par fax. Hein. Alors, ça vous dit de la transition technologique qu'on a faite. Malgré cette dépendance vis-à-vis des imprimantes, ces périphériques ne sont jamais vraiment devenus les expériences pratiques et transparentes que leurs fabricants annoncent. Certains de ces fabricants d'imprimantes ont essayé d'adopter des tendances commerciales modernes sans vraiment adopter les mentalités modernes. On parle de HP, par exemple, qui lance un nouveau programme imprimante en tant que service, alors Print as a Service, qui nécessite un abonnement où votre imprimante cesse de fonctionner. Ce changement soudain inattendu est en fait basé sur un type de service d'abonnement légèrement différent que HP a introduit il y a assez longtemps. Vous payez toujours des frais mensuels, mais c'est pour l'encre qu'il vous livre. Alors, en fait, il vous livrait de l'encre basée sur le nombre de papiers que tu imprimais par mois. Alors, ça pouvait te coûter moins cher et tu avais toujours de l'encre fraîche pour imprimer. Cette quantité d'encre est basée sur la quantité, comme je vous le disais, avec les chiffres réels qui sont ensuite envoyés au serveur d'HP qui vous aide facturer les extras. C'est Cory Doctorow, qui est un auteur et défenseur des droits de l'électronique, qui critique, en fait, qui dit que les abonnés d'HP Instant Ink ont reçu la semaine dernière un email qui a pratiquement mis fin à son programme d'impression gratuite à vie. Alors, au lieu des frais mensuels qui commencent à... maintenant, ça va être des frais mensuels qui vont être à 99 cents destinés au réapprovisionnement en encre. Vous paierez pour la possibilité d'imprimer quoi que ce soit. Alors bref, pas de paiement, pas d'impression, quels que soient vos niveaux d'encre. Alors HP n'a pas encore mis à jour ses pages d'assistance pour Instant Ink, mais l'email indique que les changements seront mis en œuvre le 26 décembre de cette année. Ces frais mensuels détermineront le nombre de pages que vous êtes autorisé à imprimer chaque mois, toujours indépendamment des niveaux d'encre, avec des frais supplémentaires par 10 pages supplémentaires. Cela s'applique très probablement à toutes les imprimantes Instant Ink que les consommateurs ont achetées en fonction des attentes de l'ancien service, qui est un service de Print as you go. Alors que nous sommes aujourd'hui habitués au service d'abonnement, l'idée est que vous devez payer des frais mensuel pour même utiliser un produit coûteux tel qu'une imprimante que vous avez déjà acheté et que alors c'est étrange et un peu troublant. HP soutiendra très probablement qu'il s'est toujours réservé le droit de modifier les conditions de son service Instant Ink comme bon lui semble, ce qui est tout aussi déconcertant. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que HP effectue de telles cascades discutables et il pourrait se retrouver à nouveau victime d'un recours collectif. Alors, c'est dans un monde où ce qu'on imaginait qu'un jour ça allait arriver, que là maintenant, ça va être presque... Tu vas voir l'utilité d'une imprimante à l'école ou à la bibliothèque, mais chez vous. Alors, tu vas devoir payer pour le même produit que tu as acheté toi-même, ce qui est assez aberrant, en espérant que peut-être c'est de la mauvaise information qu'on a reçue du côté de nous, hein, chers chroniqueurs technologiques. Mais je pense que, ce qu'on s'en va un peu, ce serait même pas surprenant de la part de HP. Alors, j'espère que HP va être très critiqué pour son utilisation de ce type de technique commerciale qui est, ma foi, assez rétrograde, assez niaiseux, hein, si on peut le dire, en bon québécois. Alors, c'est déjà la fin de notre émission en ce beau 11 novembre 2020. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur les ondes du CFAK 88.3. N'oubliez pas le Tuski, hein, qui commence dès 16h, votre retour d'actualité en information. Bref, pour la ville de Sherbrooke, on va justement parler de qu'est-ce qui se passe avec la zone rouge et tout ça. Nous, notre côté à CFAQ, on vous promet qu'on va continuer à vous offrir une programmation tout aussi intéressante et actuelle que possible. Et moi, ben, je serai des vôtres dès mercredi prochain pour une autre émission de Devant vos écrans. On se laisse en musique. Édouard VII s'en vient avec Quand ton cœur casse. Mais on va l'écouter Caravane avec Karma Alors, passez une excellente journée, tout le monde. Passez une belle semaine numérique. Lâchez pas la patate. On se voit mercredi prochain.
Oh,